Franceinter.com.
La jeunesse,
tu l'aimes
ou tu la quittes?
Tu la quittes. Joyce Ormond, ouais,
sur France Inter.
Nous entamons notre quatrième semaine à la recherche et à la rencontre de la jeunesse. Et qu'elle soit subversive ou conformiste, jouisseuse ou frustrée, redoutée ou jalousée, nous l'aimons et nous ne la quittons pas parce que c'est bon pour la santé. Ils sont bons pour la santé, Mehdi et Badrou, nos kids du Bondi Blog et leur chronique caniculaire. Et elle est bonne tout court, Agathe André, notre reporter, qui cette semaine nous emmène au camping du côté de Cherbourg avec les Craspouilles.
Feignasse mélangé à un crado, quoi. Ça nous correspond bien, ça, je trouve, non?
On est les Craspouilles.
Aujourd'hui, notre invité est un autre Craspouille, Didier Vampas, un yéyé punk sentimental et fan de vélo. Didier Vampas, vous avez 48 ans, c'est ça, hein, 48 ouais. ans. Vous êtes depuis 27 ans le chanteur du dernier groupe de punk rock en France, les Vampas, du nom d'une tribu d'hommes sauvages habillés de capes dans la bande dessinée Raon. Vous-même, il vous arrive de porter une cape sur scène et de gesticuler comme l'idole de votre enfance, Louis de Funès, à moins que ce soit Georges Marchais.
Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commando à gauche. Fais les valises, on rentre à Paris.
Ne manquez une. Mais je ne te permets pas de vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me dévoyer. Ça suffit, hein. Ça va, ça suffit, là. Hein. Enfin, essayez de comprendre. Comme ça. Vous avez vu, c'est un Anglais. Anglais. J'aime pas vous, les Anglais. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh!
Bonjour Didier Vampas.
Bonjour.
Je suis contente parce que j'ai un point commun avec vous, c'est que je suis fan de Louis de Funès. Ah, c'est bon. Aussi l'idole de mon enfance.
Ah, bravo.
Qu'est-ce qui vous plaisait, qu'est-ce qui vous plaît peut-être encore dans Louis de Funès? Les mimiques?
Bah ouais, puis là, cette espèce de folie, de folie complète, quoi. Quand tu mais que tu vois ça, tu te demandes ce qui se passe à la télé, quoi.
Et Georges Marchais, c'est aussi l'idole... De la jeunesse ou c'est quoi?
C'est mes parents. Mes parents étaient communistes, donc ils m'ont inculqué le communisme. Enfin, l'amour de Georges Marchais. J'ai croisé une fois à la fête du Luma, ça m'avait impressionné. Il était très très grand, j'étais tout petit, j'étais là. Oui, c'était mon...
Et dans le dernier album, il y a une chanson.
Oui, sur Georges Marchais.
Album, ouais. Les vents passent sont la preuve que Dieu existe, oui. Qui est sorti l'année dernière.
Bah, c'est la nostalgie de mon enfant, Georges Marchais, ça fait partie. Le regarder à la télé, c'était un peu comme de Funès d'ailleurs. Oui, c'était pas si loin de Funès, Georges Marchais.
Donc c'est un rapport plus sentimental que politique.
Oui. Oui, ouais. Je souhaite pas vraiment le retour de Georges Marchais.
C'est vrai,
en politique. Je sais pas si ça aiderait vraiment la gauche.
C'est pas sûr. Alors vous venez de la banlieue parisienne.
Oui.
Enfin, vous êtes né à Ménilmontant quand même.
Oui, je suis né. La clinique des métallos.
Voilà, clinique des métallos, là où tous les communistes accouchent.
Voilà.
Et vous avez grandi dans les Hauts-de-Seine.
À Villeneuve-la-Garenne.
À Villeneuve-la-Garenne. Donc la famille, c'était quoi? C'était ouvrier, communiste.
Voilà.
Militants engagés qui vendaient l'UMA le dimanche
matin.
Non,
ils vendaient pas l'UMA. Le vendeur d'UMA passait le dimanche matin.
Les parents achetaient l'UMA donc, le dimanche matin.
L'UMA dimanche.
Et c'est une enfance un peu grise dans la banlieue.
Exactement.
C'est vraiment une enfance grise dans la banlieue.
Ouais.
C'est pas un bon souvenir alors?
Ben oui et non, c'est pas vraiment. J'étais pas malheureux, loin de là. Je lisais beaucoup. Après, je me suis mis à écouter de la musique quand j'étais plus grand et voilà. Mais je suis pas malheureux. Non, j'étais pas malheureux du tout. Mais c'était pas très enrichissant. Enfin, à part la lecture, l'école, j'étais pas fan du tout. Donc mes parents étaient très gentils et voilà. Mais c'était pas. C'était la banlieue quand même.
Et alors, ouais. Avec rien. Souvent, on s'en sort avec la musique. Ouais. Alors, vous, la musique, vous l'avez découverte en regardant Guy Lux à la télé. C'était la première entrée. Dans le son.
Mes parents écoutaient quoi? Écoutaient évidemment Jacques Brel, Georges Brassens, ces trucs comme ça. Donc moi, j'aimais pas du tout. Quand t'es petit, tu comprends pas quoi. Quand tu écoutes Georges Brassens ou Jacques Brel, ça te fait peur quand tu es petit, tu comprends pas de quoi il parle. Donc moi, je n'aimais pas du tout. Et quand j'ai eu 10 ans, je me suis mis à écouter Lutte par d'Europe 1, excusez-moi. Mais voilà, avec Jean-Louis Lafont. Et voilà, ça a été mon entrée sur la musique, quoi. Vraiment, ça a été ça, quoi. C'était la culture variété des années 70, quoi. Il était une fois Johnny, Claude François. C'était vraiment ça, mes premiers amours musicaux.
Et ça, Claude François, par rapport à Brassens, on a l'impression que c'est du rock, quoi, c'est ça?
Oui, quelque part, oui.
Que c'est subversif.
Ouais.
Et alors, la première grosse claque musicale, on va dire, c'est à 13 ans, en 75, en écoutant une rétrospective sur le mouvement yéyé à la radio.
Ouais.
C'était Europe 1, ça, alors? Ça, c'était sur Europe 1?
Je crois bien aussi, oui. Yéyé Story, ça s'appelait, oui. Ah oui, oui, vraiment, c'était... tu sais, quand t'es môme, t'es en banlieue, t'as 13 ans, tu sais pas quoi faire, t'es pas très, très épanoui. Et tout d'un coup, je me suis mis écouter la rétrospective sur Yéyé Story, les années 60 en France, et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque, quoi. Et deux ans après, il y a le punk qui est arrivé. Et là, je me suis dit, bah oui, voilà, ça y est, je vis à une époque où il y a quelque chose qui se passe.
C'est le yéyé en mieux.
Voilà.
Ah oui, parce qu'en fait, ce qui vous plaisait dans le yéyé, c'était pas tant la musique que le fait que c'était une espèce de révolution un peu culturelle.
Aussi, si. Les deux, la musique, si, le rock'n'roll aussi, j'étais super fan de tout ce que j'entendais.
Et quand vous disiez, j'avais envie de vivre à cette époque, c'est parce que vous aviez envie de vivre à une époque où ça bougeait.
Bah oui, où il se passe des choses, quoi, vraiment. Parce que la banlieue, contrairement aujourd'hui où il y a le rap. Où il y a des choses qui se passent, dans les années 70, il ne se passerait rien en banlieue, rien du tout, quoi. C'était vraiment mort, la banlieue.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, mouvement musical
propre.
Il n'y avait
pas de culture, il n'y avait rien. On n'avait pas de culture en banlieue, non, il n'y avait pas...
Et quand vous sortiez, je crois que vous racontez que vous sortiez dans la rue avec un badge, on vous regardait de travers. Juste le fait de mettre un badge.
Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est habillé avec des couleurs, avec des trucs un peu... Voilà. Mais à l'époque, c'était fou, quoi. Oui, un tout petit badge, et tout le monde, on se fait courir après dans les rues en banlieue, ouais.
Bon, Didier Vampas, je vous présente les kids du Bondy Blog qui viennent d'une autre banlieue qu'on appelle Bondy.
Les kids. Les kids.
Tiens, tiens.
Merci, papa.
Glou, glou.
Pompette.
Boum, boum, boum.
On va s'amuser, là.
Alors, les kids ont des pouvoirs magiques. Ils sont capables de revenir dans le passé et ils vous ont suivi dans votre enfance.
Oh. Notre père qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié.
Déjà, les premières lignes le faisaient tendrement sourire.
Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pour les deux premières secondes, voilà qu'un rire venu de son bide montait jusqu'à ses tripes. Rien de bien méchant.
Donnez-nous le pain quotidien.
Et puis la troisième, un pouffement venu cette fois d'un ailleurs inconnu. Un éclatement tel une explosion, un sentiment de...
Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonnez point à la tentation, mais délivrez-nous du mal.
Ah, c'était celle de trop, le superflu, le trop flou, le trou du... De l'inexpression incompréhensible, incroyablement inexacte et ennuyante au possible.
Le cahier s'appelait...
Recueil de prières quand le saint rejoint l'envers du désert.
Sans doute son père qui avait ramené le bouquin, de bien loin, d'un endroit, d'un café où le zinc brillait, ou d'ailleurs, d'un lieu mystique où Jésus était crucifié et la Marie sublimée par un rayon de soleil évocateur. Bon, tous ces endroits que Didier,
qu'on appelait aussi Dédé ou Didi, ça dépend,
ne connaissait pas.
Tous ces endroits où il n'avait pas encore mis ses pieds. Il était tombé sur ce bouquin par hasard, il s'est dit, Didi...
Pourquoi c'est pas moi qui écris les prières?
Accord de guitare électrique sur fond de batterie, avec vers monosyllabique. À son bureau, un stylo, une feuille. Et Dédé, posé, concentré, il allait écrire une prière, et même qu'il la fera lire à tous les pèlerins qui accepteront d'être convertis. Chez Didi, la conversion, c'était écouter Elvis et dire...
À la vie, à la mort.
Nous te demandons, compagnon... Plus de folie.
Nous te quémandons, troublions encore plus de magie et de furie.
Nous t'implorons, scrogneugneux, des montagnes de torrents glacés pour qu'on s'y trempe gaiement.
Nous te supplions du schmoll, des vagues d'enfants révoltés qui lancent des pavés.
Nous t'obligeons, Seigneur, des fions abaissés, courbés, de nous balancer de l'amour à la volée. Des baisers, des frustrés et des débridés.
Ô Dieu des céréales et de la tempête, embrasse-nous ou libère-nous. Vas-y, dis-nous qu'en fait, t'es pas là. Amen.
Il avait griffonné ça. Demain au village, ils seront tous alléluistes.
Didier Vampas, vous êtes devenu catholique ?
Non.
Non, vous n'êtes pas catho, c'est pas vrai en fait. Quand vous étiez petit,
ouais.
C'était des bouffeurs de curés, j'imagine, vos parents, non?
Oui, non, pas vraiment. Ma maman me disait toujours, moi je crois en quelque chose, mais pas vraiment en Dieu, comme on me l'a.
Mais c'est pas vrai que vous lisez la Bible tous les jours?
Si, si, mais je suis pas vraiment catholique. Je lis,
ah bon, d'accord. Non, comme c'est un bon bouquin de plage, quoi.
Ou un peu plus, quand même.
Ouais, bon. Alors, on vous disait tout à l'heure, il y a eu d'abord le yéyé dans les oreilles, puis à 15 ans, 2 ans plus tard, il y a eu le punk,
ouais.
77, l'année du punk. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que cette musique est rentrée dans vos oreilles, la première rencontre?
Ah bah oui, j'étais devant la télé un mercredi après-midi, et tout à coup, il y a eu les Clash qui sont passés à une émission de Jean-Loup Lafont, je crois que c'était ça, quoi. Et là, j'ai halluciné, quoi. Enfin, je me suis dit, voilà, c'est ça, ça, quoi. Vraiment, le truc, c'est ça, quoi, voilà.
Mais dis, c'est l'équivalent des yéyés dans les années 60,
oui,
ça va tout retourner.
C'est même plus que ça, c'est ça, tout correspond. Enfin, toi, quand t'as 15 ans, tu t'attends quelque chose, quoi. Tu sais, de la vie, t'attends quelque chose, et là, c'est vraiment ça, voilà, c'était ça. Tout, quoi, c'était les Clash, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire, voilà.
Et la musique était déjà très importante avant ça, ou
ah oui.
Ça a vraiment été là où vous êtes dit...
Ah non, quand j'étais petit, j'étais fan, hein, j'achetais Podium, tout ça, je découpais les paroles des chansons, je collais dans les cahiers et tout. Non, j'étais fan depuis que j'avais 10 ans, j'étais fan de musique. Mais j'ai pas de grand frère qui écoutait de la musique. Tant mieux peut-être, sinon j'aurais écouté Led Zepp et tout ça.
Alors ouais, là, Genesis,
voilà.
La honte. Ouais.
Heureusement que j'avais pas de
et
grand frère.
Et là, vous avez dit tout de suite, je veux que ce soit ça ma vie. C'est-à-dire, je serai chanteur, ce sera mon métier.
Je me suis même pas dit ça. Mais j'ai su, quoi. Je me suis même pas dit, j'ai pensé que c'était évident que c'était ça que je voulais. Je savais pas comment, sous quelle forme, si je voulais être chanteur ou musicien, même pas, mais je savais que c'était... Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait vraiment, donc voilà, c'était ça. J'ai du mal à expliquer, quoi.
Révélation. Écouter du punk, c'était aussi rejeter tout le reste. Est-ce que c'était aussi dire justement Brassens, Genesis, Pink Floyd, je me mets en contre?
Non, même pas, parce que j'avais pas grand-chose à mettre en contre, quoi. Parce que j'avais pas grand-chose de, comment dire, c'était plutôt un peu vide, quoi, ma vie. Donc c'est plutôt remplir. J'avais plutôt envie de remplir. Et pour moi, le punk, ça n'a jamais été, comme je dis souvent, c'est pas nos futurs, destroy, c'est pas le côté noir. Et pour plein de gens, le rock'n'roll, c'est un truc noir et sombre. Pour moi, c'était tout le contraire. C'était, j'ai pas de copains, je me fais un peu chier. Et puis là, ça y est, il y a quelque chose qui arrive. On peut être différent des autres. C'est surtout ça, quoi. On peut vraiment être différent des autres et être heureux et faire quelque chose de sa vie. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde, de jouer au foot avec tout le monde. Et puis voilà, et écouter les Bee Gees, quoi. Il y a autre chose, quoi.
On peut jouer au basket et écouter du punk.
Voilà.
Donc en 77, le punk rentre. Dans vos oreilles, et des années plus tard, ça donne par exemple ça comme chanson, Manu Chao.
Les Wampas, Manu Chao.
Les
Wampas, Manu Chao, j'aime beaucoup. Ciao, je me paierai des vacances.
La jeunesse qui aime Didier Vampas, on l'aime aussi et on la quitte pas. On va jouer aux premières fois.
D'accord.
Premier baiser.
Oh là, c'était tard, je sais plus que j'avais 17 ans, un truc comme ça. J'étais très timide.
Premier CD.
Premier CD ?
Ouais.
Ben je crois que c'était un truc du Velvet. La première fois que j'ai acheté un CD, c'était VU du Velvet, je crois.
Première drogue.
Première drogue, bon, j'ai dû fumer. C'est pareil, j'ai commencé tard. J'ai 17 ans, j'ai dû fumer un truc, voilà.
Premier coup de vieux.
Premier coup de vieux. Ça, c'est une bonne question.
Qu'il n'est pas encore arrivé.
Attends, j'ai déjà bien dû m'arriver, il faut que je sois honnête, mais là, je vois pas.
Bon, je pense qu'il n'est pas arrivé, en fait, c'est ça. Premier chagrin d'amour.
Premier chagrin d'amour. Oh, bon, pas longtemps après le premier baiser, je pense.
Juste derrière. Quelques minutes après. Première fois que vous avez fait le mur.
J'ai pas jamais vraiment fait le mur. Mais comme j'ai commencé à faire le con assez tard, j'avais pas vraiment besoin de faire le mur.
Mais en fait, tout est arrivé très tard.
Oui,
quoi.
Oui,
l'amour,
oui.
Le punk.
Tout est arrivé assez tard dans ma vie. C'est pas plus mal. D'ailleurs, les conneries, plus arrivent tard, je crois que c'est... Enfin, pas trop tard non plus.
En fait, vous êtes né à 15 ans.
Voilà, je suis né à 15 ans.
Et du coup, il a fallu quoi, 2 ans à peu près pour vraiment rentrer dans l'adolescence.
À 15 ans, j'étais tout seul. Il a fallu attendre 2-3 ans, je rencontre d'autres gens, puis que vraiment, que je vive.
La vraie vie a commencé à 17 ans.
Au moins la vie.
Et Didier Vampas, alors le punk, vous disiez, c'était pas pour moi un mouvement justement noir, vindicatif, haineux, etc. C'était que de la joie, que de la fête. Et est-ce que vous avez tout de suite adopté la vie qui va avec? Parce que le punk, c'est un style, c'est des fringues, c'est des pochettes d'albums.
Bah,
c'est,
non, justement. Pour moi, c'était tout le contraire. Le punk, c'était la liberté, c'était on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, on pense comme on veut. Le punk, dès 1980 ou 79, c'est devenu un mouvement codifié où il faut être habillé comme ça, penser comme ça, faire telle musique. C'est débile, quoi. Alors qu'au départ, c'était s'habiller comme on veut, faire ce qu'on veut. C'est pas... Donc, le mode de vie punk, c'était faire ce qu'on veut, et être habillé comme on veut.
Et alors, ça donnait quoi, le look de Didier Vampasse à 15 ans?
Bah, comme je disais, hein, tu sais, tu mettais un petit badge et déjà, tu courais vite déjà, à la gare Saint-Denis pour rentrer chez toi.
Déjà, vous jetez des cailloux.
On parlait à General Motors. J'ai travaillé à General Motors quand j'étais, justement, j'étais ado au mois de juillet, quoi, pour les vacances. Je travaillais à General Motors.
Avant la RATP?
Oui, juste pour travailler pendant un mois. Voilà.
Alors, le punk aussi, il semble que ça peut servir à emmerder les parents, ou du moins à pas vouloir être compris par eux. On va écouter là un son qui date de 1983. On est à un festival de rock à Poitiers, et c'est un reportage qui passe sur Télé Poitou-Charentes.
La musique, le rock, une question de choix individuel sur lequel il est difficile d'épiloguer, mais également un premier fossé entre les différentes générations.
Ouais, je me sens déjà un petit peu décroché par rapport à cette musique, c'est tout.
Ça m'est totalement étranger. Quand on vient écouter un concert, c'est pour ça. C'est voir des musiciens jouer, les écouter, mais les voir jouer aussi.
Chez la génération des parents, ça bouge pas trop, quoi. Et puis ils refusent totalement nouveaux instruments, nouveaux glingling dans les oreilles, ils ont le tympan fragile.
Ah, ils ont peur un peu, moi, je crois.
Ouais, pourquoi?
Je sais pas, c'est comme ça, ils ont peur. Une appréhension de...
Ouais, tout ce qui est nouveau.
Ouais, tout ce qui est nouveau.
En principe, les adultes sont pas censés aimer ce que font des gens qui ont 10 ans de moins qu'eux, en général.
Donc là, on est 6 ans après l'apparition du punk, et apparemment, ça défrise toujours les parents. Est-ce que c'est ça qui fait plaisir aussi dans le punk, l'idée que les vieux vont pas comprendre, que ça les emmerde, que ça leur casse les oreilles?
Bah, pas pour moi, c'était pas ça. Moi, j'avais vraiment en point, c'était vraiment un truc positif. J'avais envie de trouver quelque chose et de faire quelque chose de ma vie. Et non, c'était pour emmerder mes parents. Non.
Et vos parents, par exemple, ils se sont dit, ouais, c'est bien le punk, on va en écouter aussi? Ou ils se sont dit, c'est quoi cette musique de sauvage?
Oh non, ils se sont moqués un peu, ils comprenaient pas trop au début ce que j'écoutais, évidemment.
Mais c'est ce côté un peu, je vous emmerde. Ça n'a jamais été un...
Ah non, pour moi, non, je ne voulais pas emmerder mes parents. Ce n'est pas le but. Voilà, non.
C'est vrai qu'on oublie que vous êtes très, très gentil, que vous êtes un punk très, très gentil.
Non, je ne vais pas être emmerder mes parents, au contraire, j'étais content que, voilà, ils m'ont laissé faire.
Et alors, quand vous disiez tout à l'heure, après, c'est devenu un genre codifié, le punk. Ça veut dire quoi? Pour vous, qu'il y a eu une espèce de période de grâce du punk qui a duré que quelques années, qui était la liberté totale, et après, il y a eu une récupération marketing, ou qu'est-ce que vous voulez dire quand?
Non, c'est pas marketing, c'est simplement que les gens, pour dire, moment, pour être punk, il fallait être habillé d'une certaine manière, faire telle musique et penser de telle manière. Alors que c'est tout le contraire, c'était vraiment tout le contraire. C'est pas le marketing qui a récupéré, c'est les gens eux-mêmes qui se sont mis dans une petite boîte. Ça m'étonne toujours, justement, les ados, ils veulent se libérer des parents, de la société, tout ça, mais ils se retrouvent à se remettre dans une autre petite boîte, généralement. Tous les gens se remettent dans une petite boîte, que ce soit métal, rap ou punk ou n'importe quoi. Ils se mettent habillés comme tout le monde. Moi, c'était tout le contraire. C'était vraiment ce que j'ai jamais voulu, quoi. Que ce soit en musique, en look, n'importe quoi. J'ai jamais voulu rentrer. C'est idiot quand on rentre dans quelque chose artistiquement, ça ne veut plus rien dire. Enfin, dans notre vie, enfin, je sais pas, c'est bête.
Mais du coup, le punk, c'est aussi, par exemple, se déguiser. Parce que c'est vrai que quand on va à vos concerts, ce qui est génial, c'est que vous êtes habillé avec des chemises à jabot, des leggings à paillettes, des capes, des petits tops en léopard. Enfin, il y a comme ça un art du travestissement. Espèce de régine du punk comme ça. D'ailleurs, vous avez fait un duo avec elle sur son dernier album. Pour vous, c'est ça, cette espèce de liberté punk, c'est je m'invente mon look, me déguise entre mec, femme, entre...
Oui, c'est vraiment faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la scène, c'est vraiment le seul endroit du monde où on a la liberté totale, où on fait vraiment tout ce que... Enfin, moi, je peux faire tout ce que je veux sur scène, m'habiller, dire ce que je veux, faire ce que je veux. Et je comprends pas que les gens n'utilisent pas plus ça, quoi. Les gens, généralement, ils montent sur scène, pourquoi? Pour faire leur petit spectacle et jouer leur chanson. Alors que c'est un espace de liberté totale, quoi. On peut faire ce qu'on veut, il faut en profiter, quoi.
Et alors, c'est la liberté aussi pour souffler un peu quand on a du boulot, enfin, quand on bosse beaucoup. Vous avez donc pas été très, très bon pendant les études, c'était pas vraiment votre truc. Vous avez passé un bac électronique, vous êtes rentré comme technicien à la RATP en 84, à 22 ans. Vous êtes toujours à la RATP. Et quasiment au même moment, parce que c'est en 83, un an avant, Vous avez 21 ans et là, vous fondez les Vents Passent. C'est un soir de fête de la musique, c'est ça
Le premier concert.
Comme quoi la fête de la musique, c'est une bonne initiative.
C'était, en tout cas.
C'était une bonne initiative. Parce que ça s'est passé comment, la création des Vents Passent ? C'est-à-dire, vous avez 15 ans, vous dites, bon, c'est ça que je veux faire. Vous allez chercher 2-3 copains et vous essayez de les convaincre. Comment ça se
décide ? Non, je n'avais pas trop de copains déjà. Donc, j'écoutais de la musique tout seul un peu dans ma chambre pendant quelques années. Et après, j'ai rencontré un copain au lycée. Voilà. Et on était deux, et puis tiens, à l'époque, pourquoi tous les groupes français sont formés beaucoup plus tard, dans les années 80? Parce qu'on était tellement peu écoutés, il a fallu que les gens se rencontrent pour pouvoir former des groupes. Quoi. Tu sais, on était un dans chaque ville, donc voilà, j'ai rencontré un copain qui était batteur, et puis après, un jour, on a rencontré...
Il fallait faire le tour de la banlieue pour recruter.
Voilà, dès que tu croisais un punk, c'était... Ah, ouais, voilà,
on va faire un on se tombait ensemble. Dans les bras,
voilà,
et on se disait, on va faire
un groupe ensemble.
Et donc, quand vous avez eu un batteur, et quoi, vous étiez trois au début?
On a rencontré deux guitaristes, et puis moi, j'ai dit, je vais être bassiste. Donc j'ai joué de la basse pendant deux répètes, puis j'ai vu que c'était trop dur, donc je me suis dit je vais chanter.
Et donc là, ça y est, les Vents Passent étaient nés, et faites de la musique. Et ce qui est marrant, c'est que vous dites qu'au début, quand même, vous étiez juste une bande de gros cons un peu bourrés.
Ah oui, ouais. Faut le dire. Bah,
donc le punk, c'était quand même un peu ça aussi.
Oui,
au début.
Oui bien sûr, oui. Il y avait ça aussi. Ouais.
C'était quand même la bière, on se trouve
par terre. Au début, ouais. Mais très vite, tu sais, de répéter, j'ai très vite arrêté de boire de la bière en répète, par exemple, parce que je me suis rendu compte que c'était con, parce que tu vois là, si tu vas en répète que pour te sauver la gueule, je vois pas l'intérêt. C'est quand même pour faire de la musique au départ. Donc de faire de la musique, de faire un groupe, c'est vachement positif. Ça t'aide à faire autre chose que de boire de la bière.
Et ça a marché tout de suite, c'est-à-dire, ça a commencé à tourner un peu dans des bars, parce qu'effectivement, c'est l'époque où la scène alternative française, comme ça, éclot. Il y a les Béru, il y a les Garçons Bouchers, voilà, il y a tous ces petits groupes de punk rock français. Est-ce que tous ces groupes sont copains? Est-ce qu'ils tournent ensemble dans les bars? Est-ce qu'il y a un truc collectif un peu qui se met en place? Comment ça se passe?
Oui, parce que c'était tellement petit, la scène à Paris, que tout le monde se connaissait. Il y a tellement peu de gens, de toute façon, la scène ou même des punks à Paris, on était tellement peu, tout le monde se connaissait. Il y avait quoi? Il y avait les squats à l'époque, Vernumil-Montant et Belleville, il y avait des squats. On allait dans les squats, on essayait de faire des concerts là-bas, on se connaissait tous. Et puis après, il y a eu un bar à Paris, à Menumontant aussi, enfin, vers Bagnolet, où on a commencé à faire des concerts. Et voilà, tout le monde jouait dans les bars. Aujourd'hui, je vois les groupes qui se plaignent. Il n'y a plus d'endroit pour jouer à Paris. Il y a 50 concerts tous les soirs. À l'époque, il n'y avait vraiment rien, quoi. Il n'y avait vraiment rien du tout, à part les squats où les CRS venaient les loger quand on jouait. Il n'y avait vraiment rien, quoi, pour jouer.
Donc maintenant, la jeunesse, elle est mieux traitée.
Oui, ils se plaignent, hein, avec tout ce qu'ils ont maintenant pour faire.
Oh, ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne guerre.
La jeunesse, tu l'aimes?
Il y a cette idée que la jeunesse est dangereuse, qu'il faut la maîtriser, faut la soumettre.
Ou tu la quittes?
Pourquoi j'aurais peur de la jeunesse? Au contraire.
Sur France Inter.
On aime toujours la jeunesse avec Didier Vents Passent, le yéyé punk sentimental qui est avec nous jusqu'à midi. Et on est avec Agathe André pour son feuilleton radiophonique acnéique de l'été. Cette semaine, on va au camping. Alors l'esprit punk au camping, c'est juste pas se laver.
Ouais, c'est un peu ça, Joy, effectivement. Alors cette semaine, hein, on prend sa glacière, son réchaud, son duvet, son maillot de bain et on plante nos tentes au camping du Grand Large, dans un patelin du Cotentin qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle Le Pieux. Alors, petite virée avec les Craspouilles, une bande de joyeux lurons de 18 ans qui ont le sentiment d'être enfin libres et débarrassés des contraintes parentales. Entre autres, pouvoir se gaver d'un tas de cochonneries.
Bon, j'espère qu'ils vont bien utiliser cette liberté qui leur a laissé les Craspouilles, parce que là, je les sens encore un petit peu engoncés.
Ils sont un petit peu engoncés, mais ça va venir, on verra demain.
Bon, à demain alors. Didier Vents Passent. Vous êtes endormi en fait pendant le feuilleton, non?
Merci
pour les Craspouilles. On parlait avant le feuilleton de l'émergence de la scène punk rock dans les années 80. Moi, j'ai l'impression que quand même les Vents Passent, c'était un peu à part, parce que les autres groupes revendiquaient plus un engagement politique. Enfin, il y avait plus une envie de rupture quand même.
Oui.
Vous étiez moins dans cette humeur-là.
Oui. Bah oui, parce que le rock'n'roll, pour moi, c'était pas que ça. Moi, j'étais fan d'avoir des Ramones, c'était mon groupe préféré, qui chantait pas des chansons très... Justement, pas politiques. Bizarrement, plus vieilli et plus j'ai envie de chanter des chansons politiques, c'est bizarre. Plus vieilli, plus je me sens de gauche et impliqué, et j'ai envie de chanter des trucs politiques. J'avais pas du tout envie, à 20 ans, de chanter des trucs engagés, et aujourd'hui, j'ai envie.
Ah, mais aucune conscience politique à 20 ans, en fait. C'était pas le problème.
Non, puis j'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé dans une culture communiste. Si j'avais voulu faire de la politique, je serais rentré aux jeunesses communistes. Et pour moi, c'était pas assez. Comment dire, c'était. n'y avait pas cette notion poétique, disons. J'avais besoin de plus que ça, quoi. Et quand j'ai commencé à faire du rock'n'roll, ce n'était pas pour faire de la politique, c'était pas... Alors, c'est un peu facile de monter sur scène, de crier des slogans, d'aller dans un squat et de gueuler, tu vois.
Ouais, ça marche bien, ça, souvent.
Oui, ça sert à rien, c'est un peu démago et tout ça, ça sert pas à grand-chose, voilà.
Et il n'y avait pas non plus de marginalité revendiquée, c'est-à-dire que ce qui pourrait faire un peu voilà, le sel de la jeunesse des 20 ans, de revendiquer la différence, la subversion, la marginalité, ça, jamais, quoi. Ça ne vous a jamais traversé comme...
Plutôt le contraire, comme justement je traînais dans les squats et tout ça, je voyais tous ces gens... Il y avait quand même un côté un peu ridicule, quoi, tu vois, l'extrême gauche et tout ça, c'est un peu, tu vois, et j'avais pas envie de rentrer là-dedans du tout, quoi. Pour moi, j'ai envie de je sais pas, d'être moi-même, déjà d'être moi-même et de... Et tout ce truc-là qu'il y avait de refuser les majors et tout ça, je trouvais ça débile. Tous les groupes punk, toutes les classes, tout le monde était sur des majors. Je voyais pas où était le problème, quoi. Moi, je m'en foutais. On m'aurait proposé de signer sur Universal à l'époque, j'aurais été.
Bah, aujourd'hui, vous êtes à Universal.
On y est, et on s'est fait virer. On a réussi à se faire virer.
Ah, bah, grâce à la chanson, puisque sur le dernier album, la première chanson qui s'appelle Universal, où vous les égratignez un peu au passage, c'est grâce à cette chanson que vous êtes fait virer ?
Oh, bah, on a, oui, puis on n'a pas vendu assez, puis la chanson, tout ça. Donc voilà, on n'est plus sur Universal. Voilà.
Ah, c'est
d'ailleurs, mon désir se plaint d'Universal depuis des années. Je peux leur dire, c'est facile de se faire virer. Si vraiment ils veulent plus y être, je peux leur donner des conseils.
On dira. Non, mais en fait, la petite période adulte où vous avez été dans une grande major n'aura pas duré longtemps.
Non. On a été chez d'autres majors avant, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil. Voilà. De toute façon, l'important, c'est de faire des disques après, que ce soit des majors ou pas des majors, on s'en fout.
Et alors, ça a commencé à bien marcher quand ? Tout de suite ou, enfin, je veux dire, bien marcher dans le sens où être sur scène, faire des disques. Le premier single, c'était quoi ? C'était 83, 84, premier 45 tours à l'époque, ça s'appelait 45 tours.
Bah, ça a marché tout de suite, oui, enfin plus ou moins, qu'on a joué tout de suite, mais pour moi ça marchait. Du moment où je me suis retrouvé avec quatre copains dans une cave et on a fait des chansons, pour moi c'était... ça y est, ça, je demandais rien d'autre. Et quand on a fait notre premier 45 tours, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. J'étais dans le train de banlieue, je rentrais chez moi, j'avais le 45 tours dans les mains. Et depuis ce jour-là, tout le reste c'est du bonus, quoi. Je demande rien de plus. J'ai pas envie d'avoir plus de succès, d'être... Je m'en fous de tout, quoi, franchement. J'ai déjà réalisé ma vie quand j'ai... voilà.
Il y avait un public, donc à l'époque, il y avait un public qui était prêt pour ça, qui attendait ça.
Tu sais, on n'avait tellement pas envie de réussir matériellement que qu'on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi j'étais heureux, jouer devant 50 personnes dans un bar, c'était le bonheur absolu, quoi. Tu te rends pas compte par rapport à rien, quoi. Quand t'as 15 ans, que t'es chez toi, que t'es rien, que t'as pas de copains, que tout d'un coup tu fais de la musique, tu fais des chansons, tu joues devant des gens. Pff. Après, moi, je demande rien de plus. Hein. Franchement, je demande. J'ai jamais demandé, j'ai jamais espéré avoir du succès, vendre des disques. Je m'en fous complètement, quoi. C'est vraiment tout ce qui arrive depuis, c'est du bonus, et tant mieux. Et on continue à faire des concerts, des chansons. Je suis heureux et je demande rien.
Ce qui est bien, c'est que Didier Vampas, c'est que de la joie.
Oui, alors... je veux dire, c'était tellement bien de pouvoir faire de la musique. Je comprends pas les gens qui, voilà, je sais pas, qui ont la chance de faire un groupe et qui. Je sais pas, ils se prennent la tête pour des conneries.
Et alors aujourd'hui, la jeunesse, elle continue à faire de la musique comme elle a toujours fait parce que c'est son métier. Et elle le fait aussi par des émissions de télécrochet comme La Nouvelle Star. Je voudrais qu'on écoute un extrait.
Ben merci, je ne connaissais pas ce document.
Et donc c'était, peut-être vous n'avez même pas reconnu la chanson, non. London Calling des Clash. C'était en 2009 à la Nouvelle Star, chantée par Camélia Jordana, Lélia et Soane. Alors c'est du, disons que c'est du punk un peu raboté. Ouais. Ça vous fout les boules là, j'ai l'impression.
Non, mais pas. Non, mais comme je dis toujours, je m'en fous. Moi, j'ai bien commencé à écouter la musique grâce à Guy Lux et à, tu vois, il parle d'Europe 1. Donc aujourd'hui, s'il y a des mômes qui ont écouté ça et qui se disent putain, c'est bien cette chanson et j'ai envie d'écouter ce que c'est, l'original, tant mieux. Moi, je crache pas, j'écoute pas ça, je regarde pas la télé de toute façon, mais pourquoi pas, quoi, La Nouvelle Star ou toutes ces conneries là, pourquoi pas. Si ça peut amener des mômes à écouter de la musique,
Et en faire, surtout.
Et en faire. Mais déjà, on écoutait avant d'en faire.
Mais là vous dites, c'est de la variété, c'est plus du punk, là, quand vous entendez la réinterprétation.
Oui, je pense, ça me met même pas en colère. Quoi. Ça me...
Mais vous dites, c'est fini, le punk passe plus dans les oreilles des ados d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on regarde des émissions comme ça, personne ne chante de punk, ou alors quand ils chantent du punk, ça donne ça.
Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est. Je sais pas, que le rap, par exemple, a remplacé le punk.
Ah, ça n'a pas remplacé. Ça a pris. Il n'y avait pas. Je veux dire, c'était tellement marginal le punk et le rock'n'roll. Enfin, le punk en banlieue. Le rap, c'est un mouvement de masse. Ça n'a pas remplacé. C'était nécessaire en banlieue. On avait besoin du rap, quoi. La banlieue, comme je dis, c'est tellement triste et gris, quoi. C'était Giscard et. Non, mais quand le rap est arrivé,
c'était gris aussi. Jusqu'à...
Voilà, quand j'étais petit, on ne se rend pas compte à quel point c'était triste la banlieue. Moi, j'étais content quand le rap est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu le punk, je me disais, on se fait courir après par les rebeux. Je me disais, mais c'est eux, ils sont cons, pourquoi c'est eux qui devraient écouter du. C'est eux qui devraient faire un truc. Toi, c'est eux les plus révoltés, c'est à eux de... Et ben, quand il y a eu le rap, je me suis dit, ça y est, au moins, la banlieue a compris, et il se passe quelque chose, et ça met de la couleur et de la vie. Non, moi, intellectuellement, je suis vraiment pour le rap. Après, j'en écoute pas beaucoup. Parce que justement, j'ai grandi en banlieue et j'ai du mal à. Pour moi, la musique, c'est un truc qui me prend aux tripes et qui me fait vibrer, auquel je crois. Le rap, je ne peux pas y croire, ça ne peut pas me faire vibrer. Quoi. La violence, ces trucs-là, moi, j'habite en banlieue et je ne peux pas... Et quand j'écoute du rap, je vois ça, je vois la banlieue et la réalité de la banlieue, ça ne me fait pas triper.
Donc, quoi. Politiquement, vous êtes pour le rap, voilà, mais votre corps, ça ne lui fait rien.
Voilà. J'ai des copains, je me rappelle, qui idolâtraient ça. MTM, pour eux, c'était des espèces de héros. Et un jour, il les a accueillis. C'était un copain qui est sonorisateur, genre il a accueilli NTM, il a dit « Putain, mais je les ai vus arriver, c'est des bandes, des gros cons de banlieue. » Enfin, tu vois, je suis pas méchant quand je dis ça.
Comme vous étiez des gros cons de punk
nous, on
dans
était
les
aussi,
années 80.
Tu vois, je veux dire, mais moi, je peux pas idéaliser le rap, parce que j'ai grandi en banlieue, donc la violence... Sans la violence, ça m'a toujours fait horreur, quoi, tu vois, et le rap, il y a quand même un gros côté violence là-dedans.
Ah, c'est pas que de la violence, quand NTM chante La Fièvre, par exemple.
Il n'y a pas que de la violence, mais il y a quand même un côté...
Il chante l'amour aussi.
Oui, bien sûr, mais il y a quand même un côté violence qui est là, vous habitez en banlieue, quand même. Ça existe la violence. Quoi.
Et moi, c'est ma chérie. Répondez oui.
Mais pas dire que ça n'existe pas dans le 9-3, la violence, ou à Paris, ou partout. Enfin, je veux dire, moi, j'ai grandi en banlieue, et ça m'a toujours... Voilà, la violence m'a toujours fait peur. Mais alors que le rock'n'roll, justement, c'était violent aussi, mais c'était un truc qu'on rêvait, ça n'existait pas. Tu vois, je veux dire, c'est du sou, c'est un gros con aussi, quelque part, qui buvait de la bière et qui se piquait après. Mais bon, mais pour moi, c'est un truc rêvé. On lisait ça dans les journaux et on rêvait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai peut-être fait du rock'n'roll, parce que c'est un truc rêvé. Pas... Si j'avais été américain ou anglais, peut-être que je n'aurais pas aimé le rock'n'roll.
Et ce qui est extraordinaire aussi avec le punk et le rock, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de savoir jouer. C'est un truc d'amateur. On prend sa guitare, on monte sur scène, on chante et on envoie. Et c'est vrai que peut-être, en ce sens-là, le rap a un peu pris le même pli. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir chanter, on n'a pas besoin de connaître une technique. Alors que la nouvelle star, c'est peut-être la fin de l'amateurisme. Je ne sais pas, c'est peut-être ça qui...
En même temps, quand tu les entends chanter, la fin de l'amateurisme...
Ouais, mais c'est très soutenu, c'est travaillé. Il y a des coachs, il y a des profs, il y a de la technique, etc. Mais vous n'avez pas envie de faire le vieux con qui dit il n'y a plus de punk, l'esprit punk est mort.
Non, je veux dire, le punk, c'est quoi? Ça a été un mouvement qui a existé 3 ans et après, après, ça existe toujours. Il y en aura toujours, il y a toujours des gens dans 50 ans. Il y a des gens qui jouent du clavecin aujourd'hui. Dans 500 ans, il y a des gens qui jouent du punk et voilà quoi. Il y a plein de groupes qui font. Bah, les Ramones, c'est marrant. Les Ramones, ils sont tous morts, enfin, par le batteur. Et il y a plein de groupes aujourd'hui qui font des reprises, qui font les Ramones, ils sont habillés pareil, ils refont les concerts des Ramones. Mais en vrai. C'est ce qui se passe dans la musique classique, quoi. Quand les gens jouent Mozart aujourd'hui, ils font une symphonie de Mozart, c'est comme les gens qui s'habillent comme les Ramones, enfin, sauf que les gens ne sont pas avec des perruques. Mais je veux dire, c'est pas vraiment différent, quoi. Et je pense que dans 100 ou 200 ans, les gens seront habillés comme les Ramones, referont les Ramones, mais voilà, pourquoi pas.
Ouais, le punk est pas mort parce qu'il suffit de faire la 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 yé 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 dans le micro, comme vous faites, dites-y, voilà. Vampas, de monter sur scène, de mettre une belle chemise et on peut faire du punk.
Voilà.
Là, on vient d'écouter Bass avec Didier Vampas. Alors, Bass, c'est un vieux pote de Didier Vampas. Comme quoi, les punks ont beaucoup d'amour à donner. Ils aiment tout le monde.
Ouais, ils jouaient du clavier dans les satellites, à l'époque.
Ils jouaient du clavier dans les satellites. Ah, à l'intérieur du groupe, les satellites. Non, pas autour de la Terre.
Dans le groupe, les satellites.
D'accord.
Quoique.
Bon, Didier Vampas, vous nous dites que vous n'êtes pas violent, que vous n'êtes jamais en colère. Il y a bien quelque chose qui vous fout en rogne dans la vie.
Bah, oui, tout et rien. Il y a tellement de trucs qui te mettent en rogne que... Quand beaucoup de choses qui te mettent en rang, que tu essaies justement de ne pas être en colère tout le temps. Donc, sinon, dès que tu écoutes les actualités.
Par exemple, qu'est-ce qui vous rend à tantiner, Stéro?
Hystéro, ben, j'en sais rien, la politique française, par exemple. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails.
Bon, alors j'ai une autre question. Voilà. Parce que je vous ai vu réagir pendant les informations sur le poulpe, Paul. Paul, alors, que vous inspire ce visionnaire mollusque?
Le visionnaire mollusque, rien du tout, je m'intéresse.
C'était ma question débile.
J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va gagner le Tour de France. Il peut me dire si c'est Contador ou Schleck qui gagne. Voilà, là il est vraiment
Schleck, bon.
Non, on est à fond pour personne.
Si, si, on est pour Schleck. Je le dis.
Oh, c'est une tiède, cette Agathe. T'es pour Armstrong?
Oui.
Ah oui.
Écoute, t'as mis sur le cheval.
C'est vrai qu'aujourd'hui, Armstrong fait un peu pitié.
Et Didier Vampasse, aujourd'hui sur scène... Quand on vous voit, il se trouve que je vous ai vu plusieurs fois. Ce qui frappe, c'est que effectivement vous avez gardé cette espèce d'amateurisme ultra péchu et ultra joyeux des débuts. Il y a l'art du déguisement. C'est une espèce de fête permanente où vous êtes porté comme un roi par la foule, où vous venez embrasser vos fans. Il y a tous les âges. Il y a des enfants, il y a des vieux. C'est une espèce de kermesse comme ça, hyper hyper festive. Est-ce que c'est ça qui finalement vous maintient en forme et fait que ce coup de vieux dont je vous parlais tout à l'heure, vous l'avez toujours pas pris?
Bah oui, c'est vrai que monter sur scène c'est tellement un moment de, je sais pas, c'est tellement un truc total quoi, une expérience totale quoi. C'est un peu on revit un peu tout quand on est sur scène. Et le fait d'avoir des enfants qui viennent au concert, par exemple, ça ne donne pas un coup de vieux, au contraire. Je suis vachement content. Maintenant, depuis 5-6 ans, il y a de plus en plus d'enfants au concert. Je suis vachement content. La première fois, je me rappelle, c'est dans le nord de la France. On a fait un concert, il y avait plein de mots, mais j'avais l'impression d'être Claude François sur scène. Et tu ne peux pas savoir le bonheur que ça.
Mais t'es un peu habillé comme Claude François, de fait.
Pour moi, c'est. Des fois, on me demande, on me dit oui, c'est Iggy Pop ton idole. Ben non, moi, j'ai jamais vu Iggy Pop quand j'étais petit. C'est Claude François et Johnny. Quoi. Je veux dire, quand je monte sur scène, je suis Claude François, je ne suis pas Iggy Pop.
Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, vous continuez à considérer que tout ça, ce n'est pas très sérieux, que le rock, ce n'est pas vraiment un métier. Vous continuez quand même à aimer faire le con, à écrire des chansons, je disais au début que c'est du punk sentimental, à écrire quand même essentiellement des chansons d'amour, des chansons potages, des chansons surréalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune professionnalisation, en fait.
J'ai pas envie, j'ai surtout pas envie. C'est pour ça que je continue à travailler à côté, parce que ça me permet d'être, quand je fais de la musique, de m'en foutre, de vendre des disques, d'être sérieux. C'est important de faire de la musique, c'est le plus important de ma vie, mais c'est pas pour ça qu'il faut se prendre au sérieux, au contraire. C'est parce que c'est tellement important qu'il ne faut pas se prendre au sérieux.
Mehdi.
Moi j'avais une question, vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez encore à la RATP, est-ce que c'est punk là-bas?
À la RATP, ouais. Oh bah des fois ouais, si. Non mais c'est drôle d'expérience, c'est vrai que des fois moi je fais les 3-8, je suis électricien et des fois la nuit tu vas dans les tunnels et tout, tu vois les mecs qui bossent dans les tunnels, il y a vraiment des choses qui se passent incroyables quoi.
Comme ?
Il y a des petits moments de vie quoi, t'étais à 3h du matin dans un tunnel avec les mecs en train de changer les rails, des trucs, mais tu vois c'est, il y a vraiment des expériences des fois à la RATP.
Et vous chantez dans les tunnels ?
Ça m'arrive des fois. Ouais. J'aime bien chanter dans les tunnels. Ouais.
Et vous, dans une interview à Libé l'année dernière, vous disiez quand je suis sur scène, je donne tout physiquement et émotionnellement. Et en fait, je ne me vois pas descendre de scène. Et je veux, comme Charles Trenet, chanter jusqu'à 80 piges. Ça, c'est une conviction. Ça. C'est,
ah,
vous,
oui.
Vous le dites toujours, ça.
Ah, oui, je veux continuer tant que je pourrai à chanter. Oui, oui. Il n'y a pas de raison.
Et vous ne dites pas, il y a un moment, il faut décrocher.
Pour faire quoi?
Non, mais vous ne dites pas, il y a un moment où je serais peut-être un petit peu ridicule. Vous voyez, quand on voit NTM encore sur scène, ou quand on voit les Stones encore sur scène, bon, on peut considérer qu'ils continuent à bien envoyer. On peut aussi considérer que peut-être ils sont fatigués et peut-être il n'y a plus l'énergie. Je vous rassure, vous avez de la marge, hein, mais vous ne posez pas cette question.
Non, parce que tu vois, je vois plein de groupes et je vois rarement des mots où je me dis, oh là là, j'aimerais bien... Je me sens vieux à côté d'eux. Quoi. C'est rare. Je crois que c'est jamais arrivé que je voyais un groupe où je me dis à côté d'eux, je me sens vieux. Quoi. Donc ça va. Non, mais un jour, c'est sûr, quand j'aurai 80 ans, je pourrais peut-être moins sauter partout, moins slammer. Mais c'est pas grave. Tout ça, ça va. Je pense ça peut se transfigurer en autre chose. Tu vois, l'émotion se donner autrement, je sais pas, mais on verra bien.
J'ai l'impression que vous préférez votre jeunesse de maintenant. Parce que comme vous êtes toujours jeune, faites en sorte d'eux. Vous n'avez aucune nostalgie de vos 20 ans,
non.
Et que plus ça va, plus vous êtes jeune et plus vous aimez votre jeunesse de maintenant, la jeunesse de bientôt 50 piges.
Ah oui, plus je me sens bien sur scène. Je te jure, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Là, chaque fois qu'on fait un concert, j'ai l'impression que je me suis mieux sur scène. Je suis de mieux en mieux, de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui.
Ça, c'est le vélo. Hein.
Entre autres. Ça aide le vélo, ça c'est sûr. Vive le vélo.
Et c'est aussi d'avoir... vive le vélo. Vive le vélo.
Vive le vélo. Bon.
C'est aussi parce que c'est vrai que vous avez une forme physique assez impeccable. Moi qui vous ai vu presque nu sur scène, je peux en témoigner. Mais à quel prix quand même on conserve cette jeunesse? Parce que vous avez arrêté la clope, vous avez arrêté l'alcool, vous avez arrêté tous les excès.
Ah oui, mais très tôt. Hein.
Donc c'est quand même au prix d'une certaine vie rangée que vous conservez cette pêche-là.
Je ne vois pas ça comme ça du tout, non. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait aucun sacrifice. Non, pas du tout. Non, je n'ai fait aucun sacrifice. Au contraire, c'est... Quand on a un but dans la vie, après, le reste, les trucs secondaires, on peut s'en passer, quoi. Tu vois, je veux dire... De ne pas traîner dans les bars, de ne pas picoler, c'est vraiment pas un sacrifice, quoi.
En fait, vous n'êtes pas vraiment un être d'excès, comme on peut imaginer qu'est le punk.
Non.
Cet individu étrange.
Non, l'excès, il est sur scène, mais c'est pas que ça. L'excès de quoi? C'est toujours pareil. Moi, j'essaie de faire l'excès de que dans ma vie, j'essaie d'être le plus heureux possible, c'est tout, et de faire des choses le mieux possible.
C'est vrai qu'il y a de l'excès de joie sur scène.
Voilà, et puis dans ma vie, j'essaie d'avoir la vie la mieux possible, c'est tout. Mais après, voilà l'excès, quoi. Non, il y a plein de gens qui ont l'impression parce qu'ils continuent à garder le mode de vie de quand ils avaient 17 ans, c'est-à-dire à picoler, à être avec les potes, tout ça. Ils restent fidèles à quelque chose, mais fidèles à quoi, quoi? Quand t'as 40 ans et que t'es gros, et que t'as un gros bite, t'es fidèle à quoi, quoi? Quand t'as 15 ans ou 17 ans, ce que tu aimes, c'est pas ça. C'est pas pour ça que tu fais de la musique ou que tu te mets à traîner avec des potes. C'est parce que t'as envie d'autre chose et d'être. C'est pas pour avoir un gros bide et puis boire de la bière, quoi. C'est pas ça. Personne rêve à ça. Hein.
Et vous avez l'impression qu'autour de vous, les groupes de punk rock de la même génération, ils ont mal tourné.
Non, pas vraiment. Ça dépend. Il y en a qui font. Ça dépend.
Voilà, ça dépend des noms.
Ça dépend des noms. Non, mais il n'y a pas beaucoup qui ont mal tourné, hein, je crois pas. Pas vraiment. Non, on ne va pas dénoncer.
Non, mais disons que cette joie que vous aviez dès le début, c'est quand même ce qui vous a permis de durer, me semble-t-il.
Ah oui, ça c'est sûr.
Bon, Didier Vampasse, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans l'émission.
Il n'y aura pas de quoi.
Alors, vous terminez votre tournée donc, pour promouvoir, entre autres, votre dernier disque qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Les Vampasse sont la preuve que
vraiment,
Dieu existe.
C'est pas vraiment pour
promouvoir. Non, pour promouvoir, c'est moi qui le dis, ça, parce que c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, on fait semblant de faire de la promo. Disons que c'est votre dernier disque et le dixième. Vous êtes mercredi à Saint-Pierre-de-Chartreuse, je ne sais pas où c'est.
Vers Grenoble.
Le 29 juillet en Suisse à Estavayer-le-Lac, et le 31 juillet en Alsace à Célestat.
Sinon, attends, on joue à Bercy pour les sans-papiers, je dis, parce que c'est pas
pour
nous.
Alors
voilà,
c'est quand,
le 18-9 à Bercy pour les
sans-papiers. Le 18 septembre à Bercy pour
avec
les sans-papiers.
Avec plein de gens pour les sans-papiers. Voilà.
On ira pogoter.
Voilà. Mais contre le sida.
Les kids, merci. Demain, on retrouve nos copines Faiza et Widad. Salut Agathe. Demain, camping à nouveau. Merci à Maureen Chapuis et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission avec l'aide de Julien Dumont, Fabrice Desmaz et Adrienne Semiatiki à la technique. À Grégoire Louis qui a préparé le plateau à la documentation. Anne-Sophie Ladonne qui a trouvé tous les sons. À Thierry Dupin pour la programmation musicale. Vous retrouvez toutes les informations, toutes les références de l'émission sur notre site internet. Et demain, notre invité est le dessinateur Franck Margerin.